Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Elle dit, servez-vous. Ils se servent. Elle leur dit, j'adore ces gâteaux bon marché. C'est ma façon. Elle ici regarde sa montre et dit, je crois que c'est qu'il serait temps que je rentre. Romain lui dit, vous ne voulez pas dormir ici? Il lui dit, non. Elle dit à son frère, c'est vrai, il ne peut pas dormir, ça ne se fait pas. Romain lui dit, et pourquoi ça ne se fait pas, non? Le soir lui dit, tu ne vas pas recommencer à avoir une crise, ce jeune homme veut s'en aller. Romain lui dit, non, c'est toi qui veux le faire partir. Moi, je ne veux pas. Je veux garder mon ami. Elle lui dit, non, c'est impossible. Il n'est pas. Romain lui dit, si, c'est bien, lui. Et s'il dit, bon, eh ben, je vous laisse. Romain lui dit, non, vous restez. Ta soeur dit, bon, fais comme tu veux. Mais s'il arrive quelque chose, tu es responsable. Moi, j'en ai assez. Je veux pas vivre au milieu de cadavres. Et s'il dit, tu es folle? Non, le frère dit, tu es folle? Il est bien vivant. Il dit à Alexis, elle est folle. Complètement folle, ne faites pas attention. Elle dit à Alexis, restez pour la nuit ici, puisqu'il veut être malade autrement. Autrement il sera malade, puisqu'il va être malade. Et s'il se sent gêné, il en a marre, il ne comprend rien. Il veut fuir. Mais comment faire? Elle lui dit, venez, je vais vous montrer votre chambre de Gerlas. Il suit le frère et la sœur. Romain lui dit, vous verrez, vous serez très bien, près de ma chambre. C'est à côté de la mienne. La sœur soupire. Et il monte jusqu'au deuxième étage. Longe un couloir. En passant devant une porte fermée, Romain dit à Alexis, ici c'est la chambre de ma mère. Elle tient la maison. Le corps est encore là. faudra qu'on l'enterre dans le jardin plus tard. Et il se dit, il doit lui dire ça pour lui faire peur. Il lui dit, oui, bien sûr, il faut l'enterrer dans le jardin. La sœur lui dit, il dit ça, mais c'est lui qui ne veut pas s'en occuper. Moi, je veux m'occuper de tout. Même à l'enterrer, n'est-ce pas? Et ici, il lui dit, oui, bien sûr, bien sûr. Elle ouvre une porte éclair. Voici la chambre. Ils entrent. La pièce est vaste, sombre, très sombre. Elle est meublée de grands, gros meubles du 19e. Armoire de porte liée à deux places, table de nuit, petit bureau, secrétaire, chaise. Elle dit, j'espère que ça vous plaira. Elle lui dit, vous merci, sera parfait. Comme elle lui dit, j'ai ma chambre tout près et je peux venir à tout instant. Et ici, lui dit, sans savoir pourquoi, merci. Elle dit, lui demande pourquoi il a accepté cette invitation étrange. Le frère et la sœur les laissent, le laissent. Ne connaît pas ces personnes, risque peut-être d'avoir des ennuis. Il commence à se préparer pour aller se coucher. Ouvre le lit. Tout en se préparant pour se coucher, il entend dans la pièce voisine la sœur dire, mais pourquoi est-ce que tu l'as gardé? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas m'amuser moi aussi? Tu es ridicule, Romain. Une porte qui claque. On frappe à la porte de sa chambre. Entrez. Entre la sœur. Elle dit, je m'excuse de vous déranger, mais mon frère a changé d'avis. Il faut que vous partiez. Oui, je sais, c'est pas très convenable. Mais mon frère n'est pas bien du tout. Il a perdu un ami, un grand ami pour lui. Il est mort par sa faute, comme il croyait que je l'aimais, il est devenu fou de jalousie. Elle dit que son ami, qui ne voulait plus le voir, parce que soi-disant, il lui avait volé sa montre, une montre de prix. Bien sûr, c'était faux. Cette montre perdue a été retrouvée dans les affaires de l'ami de Romain. Alors lui, paniqué, il s'est défenestré. Il a dû se sentir touché, perdu, peut-être honteux, qu'on le croyait coupable. Il s'est donné la mort. Romain, pris de remords, coupable, est devenu comme fou. Il a eu de la fièvre, a perdu conscience. Après plusieurs semaines de maladie entre la vie et la mort, qui a été, pour ainsi dire, un passage d'un monde à l'autre, lui, si ouvert, si gai, lui qui aimait la compagnie, s'est mis à détester le monde, les gens, à vouloir vivre replié, à ne plus supporter le jour, n'aimer que la nuit. Il était devenu le contraire de ce qu'il était. Et en plus, peut-être, pour se faire pardonner, il s'est mis à m'identifier, à vouloir que je sois toujours près de lui. Nos parents sont morts juste avant cet événement. Il est tout. Que tous les deux, dans cette maison. Mais avant cet incident, nous recevions beaucoup et étions heureux. Malheureusement, il s'est mis à se prendre à l'affection comme le font un garçon pour un autre garçon. Et cette affection a grandi. Comme moi j'étais entre lui, entre eux je veux dire, et que j'étais une fille, Il a cru que son ami et moi, mais c'était faux. Cette jalousie était idiote. Parce que moi, je préfère les garçons qui étaient le contraire de lui. Lui était trop fragile. Moi, j'aime les hommes, trop jeunes, enfin, en tout cas pour moi. Donc, depuis la mort du jeune homme, mon frère vit seul, avec moi. Il me traite comme si j'étais son double. Comme si j'étais un autre lui-même, si vous voulez. Moi, j'aimerais bien, c'est me libérer de tout ça, vivre une autre vie dans le monde. Mais je ne peux pas le laisser seul. J'aurais peur pour lui. Il est tellement bizarre. Depuis quelque temps, chaque fois qu'il croise un garçon qui ressemble à son ami, il veut le mener ici et cherche à le garder. Bien entendu, les garçons refusent de tout et même d'entrer chez nous parce qu'ils le trouvent étrange et que je suis un obstacle. Mais vous, je ne sais pas pourquoi, vous avez accepté, a-t-il dit. Moi, je ne savais pas pourquoi, mais je crois que je suis malgré moi attiré par vous. Maintenant que vous m'avez raconté votre histoire, je commence à comprendre. L'histoire de votre frère ressemble un peu à la mienne. Et il lui demande comment. Il lui dit, bien sûr, mon histoire n'est pas la même, mais elle a le même, disons, talisman. Moi aussi, j'avais un ami d'enfance de toujours. Et nous étions très unis. Et un jour, j'ai fait une chose horrible, terrible. J'ai dénoncé une faute terrible et qu'il n'avait pas faite. C'est moi qui l'avais faite. Il a été renvoyé. Elle a disparu à jamais de ma vie. Depuis, chaque jour, fois que je suis dehors ou dans un lieu public, je crois le voir. Ça me fait mal. Je crois après des inconnus qui lui ressemblent. Je veux le revoir pour lui demander pardon. J'ai fait cette chose pour vivre ma vie comme je le voulais, comme je le souhaitais, me marier avec une jeune fille que j'aime, me faire une belle situation. Mais ma faute m'empêche d'être vraiment heureux. Elle lui demande si vous avez accepté de passer la nuit ici, c'est parce que mon frère lui ressemble. Il lui dit, non, pas du tout. Mais comme ça, peut-être que je me sentais seul, triste, que je n'avais pas envie de rentrer chez moi, à Paris, retourner vers ma femme, mon travail, mes obligations. Je m'aperçois de plus en plus, c'est que j'ai trahi, fait un crime vis-à-vis de mon ami pour des choses que maintenant me paraissent fades. Elle lui dit, changer de vie. Il lui dit, je ne peux pas, parce que j'ai une chose à faire. Je vais venger mon ami. Elle lui fait, en faisant du mal. Il lui dit, oui. Il est déjà prêt. Puis il est déjà vengé, parce que j'ai mal, moi, j'ai du remords, mais je veux punir la personne qui m'a poussé à faire ça, pour que cette personne comprenne qu'elle a fait mal, qu'elle m'a forcé à faire du mal. Et pour le punir, je dois rester près d'elle. Elle lui fait, vous gâchez votre vie. Et lui dit, comme j'ai gâché la vie de mon ami, c'est normal. Et il dit, je crains que pour votre bien et celui de mon frère, il serait bon que vous nous quittiez. Et il dit, si vous voulez, je peux m'en aller. Je retournerai à ma chambre d'hôtel. Et lui demande, ça ne vous fâche pas? Il lui répond, non pas du tout, je comprends. Elle l'embrasse sur la joue et lui dit, merci. Il se range et sort de la chambre. La porte de Romain s'est ouverte. La chambre de Romain s'est ouverte. Il demande, qu'est-ce que vous faites? Elle lui dit, monsieur a décidé, c'est de nous quitter, il a affaire. Romain va vers Alexis et lui demande, c'est vrai? Je lui dis, oui c'est vrai. Romain lui dit, je ne veux pas, vous devez rester près de moi, j'ai besoin de vous. Et je lui dis, je ne peux pas. Romain lui demande, pourquoi? Et puis il regarde sa soeur et lui dit, ah, c'est toi qui l'a fait partir. Peut-être veux-tu partir avec lui? Et elle lui dit, mais non, je t'assure que non. Et il dit furieux, qu'est-ce que tu lui as dit? Elle lui dit rien. Tu lui as dit quelque chose pour qu'il veuille s'en aller. Il est furieux, s'approche d'elle. Elle recule, la prend par le bras, la secoue et lui dit, je veux pas que tu partes avec lui, il est à moi. Il lui dit, mais tu es fou, tu fais mal, lâche-moi. Il lui dit, non, non, il est à moi, rien qu'à moi. Il lui dit, arrête Romain, il veut s'en aller. Romain regarde Alexis qui est gêné, il lui demande, c'est vrai? Et il lui dit, oui. Romain lui dit, non, tu ne partirais pas, parce que je ne veux pas. Il pleure, j'ai besoin de toi, de ton affection, j'en ai besoin. Il faut qu'on pardonne ce que j'ai fait, et toi tu peux, en restant près de moi. Et il lui dit, je ne peux pas rester, et puis, je ne peux pas, mais je te pardonne. Romain lui dit, si tu me pardonnes, reste près de moi. Il lâche sa soeur et va se plaquer contre Alexis, qui n'ose pas bouger, gêné. Romain pleure dans ses bras, comme le faisait Mathieu dans ses bras, s'il le voyait. Puis, il dit, non, je ne veux pas, je ne peux pas rester. Romain se retire et lui demande, pourquoi est-ce que tu ne peux pas? Parce que j'ai ma vie. Tu peux. Tu préfères. Tu peux rester et me pardonner. Et s'il lui dit, je n'ai rien à te pardonner. Je pars, je te pardonne, j'ai pas à m'occuper de tes histoires. La soeur prend son frère dans ses bras. Le frère se retourne et d'un geste crie, personne ne pardonnera alors, reste. Et il va s'enfermer dans sa chambre. Et si se dépêche de descendre les escaliers et de sortir de cette maison. Une fois sorti de la maison, il entend derrière lui, il se retourne Et voit Aurore, avec Aurore, le corps de son hôte, tomber à ses pieds. Il reste paralysé et voit Romain couché sur le ventre, les jambes écartées, la tête penchée sur le côté, mort, les yeux, la bouche ouverte, du sang sur la tête. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et il s'y tremble de tous ses membres. Il est comme fou. Des pas. Il entend des pas derrière lui. Une main sur son dos et lui crie « Sauvez-vous vite, cette histoire n'est pas la vôtre, vous allez finir la vôtre. » Elle ici se sauve en courant et sort de la maison. Dans les rues sombres de Lyon, il réussit à trouver son hôtel. Elle est dans sa chambre. Une fois dans sa chambre, il se jette la tête la première sur son lit et pleure, pleure. Il a l'impression d'avoir vécu en accéléré sa vie. Ce corps, ce beau visage mort, mort à jamais. Il pleure jusqu'au lendemain matin. Il se relève, il n'a pas envie de prendre son petit déjeuner ni de se laver. Il fait sa valise. Descend à la cueille. Il pèse sa chambre et sort de l'hôtel. Il va prendre un taxi pour aller à la gare. Il a la tête en feu et en même temps elle est vide. Il veut tout oublier, tout. Arrivé à la gare, il va prendre un billet. Le train part dans un quart d'heure. 5 ans plus tard, il est à Paris. Il est chez lui. C'est la fin de la journée. Il retrouve sa femme dans sa chambre, en train de se maquiller, et lui dit « Chérie, je suis heureuse que tu sois revenue. Ce soir, je vais chez les Franblancs. Tu viendras avec moi ?» Il la regarde. Ne la reconnaît pas. Il est vrai qu'elle a beaucoup changé ces derniers temps. Elle est plus femme, même femme du monde. Elle ressemble de plus en plus à sa mère, hélas. Elle est coquette, aime les toilettes, les compliments, les soirées. Lui déteste tout ça. Pendant une fraction de seconde, il se demande qui est cette femme chez lui et qu'est-ce qu'il fait avec elle. Elle le regarde et lui dit « Tu ne me réponds pas ?» Il lui dit « Écoute, je rentre, je suis crevé et je te demande de me laisser tranquille. Toi, tu veux que j'aille à une soirée, j'ai besoin de repos. » Je dis non. Elle lui dit, c'est la première fois que tu me parles comme ça. Puis elle lui dit, mais une soirée, c'est amusant. Et on se détend. Viens. Il lui dit, non, j'ai pas du tout envie. Elle le regarde bien. Elle a changé. Ses goûts ont changé. Maintenant, elle aime les hommes qui font homme et qui la flattent. Son mari, elle l'aime ? Oui, elle l'aime. Mais il ne sait pas la flatter. Et puis, il est un peu, disons, jeune. Elle, elle aime mieux les hommes mûrs. Ils savent se comporter. En réalité, elle s'est transformée en sa mère. Et elle souhaiterait savoir son père comme mari. Cela est fréquent chez les couples après quelques mois de mariage, une fois qu'on a fait le tour de l'autre. Nos rêves à autre chose et à être quelque chose d'autre. Et malheureusement, instinctivement, on devient sa mère et l'homme idéal, c'est son père, pauvre mari. Mais lui aussi voit ce changement. Sa femme n'est plus la même. Et ce décor où il vit, parce qu'il revient de voyage, ne faisait pas attention où il habitait. Mais comme il voit sa femme changer, il voit le décor aussi et se dit, je vis avec une femme qui n'est pas la même. Et dans un décor qui n'est pas le mien. Il se demande ce qu'il fait ici. Et dire qu'il a sacrifié son ami pour rien. Il se dit qu'il n'aime pas sa... Il ne se dit pas qu'il n'aime pas sa femme, qu'il ne l'aime plus, non. Mais il voit avec surprise qu'elle n'est plus la même. et qu'il vit dans un monde qui lui est étrange. Ça l'attriste. Et puis il est fatigué, très fatigué. Cette histoire de lion l'a rendu songeur. Elle lui dit, tu pourrais tout de même faire un effort. Il lui dit, des efforts j'en fais toujours. Et mon voyage à Lyon, c'en est pas un ? Elle lui dit, je ne te parle pas de ton travail, mais d'aller à cette soirée pour une fois que les Francs Blancs nous invitent. Il lui dit, tu peux bien y aller seul. Il lui dit, c'est mieux si on y va à deux. Viens. Il soupire et lui dit, bien, mais laisse-moi me reposer un peu, je suis crevé. Il lui dit, tu es un chou. Nous partirons dans 4 heures. Tu vois, tu as le temps de dormir un peu et de te reposer après. Il lui dit, merci. Elle lui sourit. Elle se dit, il ne m'a même pas embrassé et dit bonjour. Il est revenu comme ça. Et je me sens comme ça, insouciant. Et moi qui pense à lui, qui lui dit de venir à cette soirée. Et lui dans sa chambre, dans cette chambre, qui a un décor de théâtre. Oui, qui ressemble à un décor de théâtre. D'ailleurs, sa vie est une vie de comédien, de personnage. Ça va bien, parce qu'il est un comédien, un personnage de théâtre, de fiction, qui a un rôle à jouer. Le mari de cette femme, oui, c'est sa femme, et qu'il aime, oui, il aime. Mais pourquoi cette amertume? Pourquoi ce dégoût? La fatigue, sans doute. Et Lyon, cette histoire. Cette histoire qui lui colle à la peau, une histoire horrible. Peut-être que lui aussi aurait mieux fait de faire comme ce jeune homme, de se défenestrer. Habille. Et se couche. Épuisé, il réussit à s'endormir. Trou noir. Deux heures plus tard, il se réveille, la tête lourde, fatiguée encore. Il doit se lever pour se préparer pour cette foutue soirée. Alors, il se lève. Va à la salle de bain, prendre sa douche. Sentir l'eau sur son corps, ça lui fait du bien, ça le détend, il enlève les courbatures. Après avoir pris sa douche, il se rase. se met un peignoir blanc et sort de la salle de bain. Puis il sonne la bonne. Il veut prendre un petit déjeuner, un petit quelque chose avant de partir. Il n'a rien mangé depuis hier au soir. Frappe à la porte. Entrez, c'est la bonne. Il lui dit, est-ce que vous pouvez m'apporter, s'il vous plaît, un thé complet avec des œufs sur le plat et puis du sandwich et autre chose si vous avez. Il lui dit, bien monsieur. Elle le quitte. Ouvre son armoire pour en sortir un smoking. Une chemise et des sous-vêtements. Il met tout ça sur son lit et commence à se préparer. Une demi-heure plus tard, il sort de sa chambre. Habillé et reposé. Dispo pour aller faire les mondanités. Il va retrouver sa femme dans sa chambre. Entrez. Elle termine de s'habiller. Elle porte une robe longue, très longue. Elle est en argent, argenté, pleine de brillants argentés. Elle porte un collier de perles et des boucles d'oreilles. Elle est très belle, mais plus sa femme. C'est une femme du monde, comme sa mère. Il lui dit, tu es très belle. Elle lui dit, merci, toi aussi. Elle prend son sac, qui est sur la commode. Et ils sortent de la chambre pour sortir de l'appartement. Une fois dehors, ils vont prendre la voiture avec chauffeur. Se passe-t-il cette soirée? Elle lui dit, chez les Francs Blancs, à Vue Velasquez, c'est privé. Et pourquoi nous sommes invités? Elle lui dit, ton père a fait de bonnes affaires, alors... Ils arrivent à Avenue de Velasquez, à l'hôtel que vous connaissez depuis l'Élu et la Spirale de Verre. Lorsqu'ils arrivent, il y a déjà du monde, des voitures garées dans la rue de partout. Des voitures de sorte des femmes et des hommes en tenue de soirée. L'hôtel est tout illuminé. On entend de la musique, le bruit des conversations. Ce premier qu'a lieu la soirée. On a mis les pièces en enfilade comme d'habitude. Sur les marches du bel escalier de pierre et la rampe sculptée se trouvent le père et la mère Framblanc. Ils reçoivent leurs invités. Bonjour, très heureux que vous soyez venus. Allez-y, il y a de tout. En haut, allez-y, etc., etc. Arrivé au premier, Alexis, sa femme, tombe sur Albert. Il est surpris, heureux de voir son gendre. Il leur dit, je suis heureux de te voir ici. Tu as le sens du devoir, toi. Félicitations, à peine rentré. Et tu te lances dans une soirée pour aider ton beau-père. Tu es quelqu'un de bien. Sa fille lui dit, c'est grâce à moi, mon père lui dit, ma petite chérie. Et lui dit, tiens, il y a le bel Harold qui te fait signe, va le voir. Elle les laisse. La dame à tête de cheval se tourne vers Harold et lui dit, mon genre s'est mis dans la tête de travailler chez vous. Est-ce que vous n'avez pas une place pour lui? Elle s'y en profite pour s'éloigner, se trouver un coin tranquille pour se reposer un peu. Il se met dans un angle d'une fenêtre. Il se demande si Frédéric est là. C'est la seule personne à qui il a envie de parler. Il voit de loin Gilbert et Nathalie avec Julien. Ils parlent entre eux et semblent aussi s'ennuyer. Elle s'y se dit, je reste une heure et je quitte tout ça. Il faut retrouver son lit et dormir un peu. Il voit sa belle-mère avec Judith, qu'elle l'observe du coin de l'œil. Il se dit, si elle s'imagine qu'elle peut m'avoir, la pauvre. Les femmes sont toujours pareilles. Elles croient que les hommes doivent être à leurs pieds. Le temps passe. Ça parle, ça danse. Et lui s'ennuie. Il ne peut que s'ennuyer. Lui est à part. Il se dit, tiens, j'ai les mêmes idées que Frédéric. Suis-je un surhomme ? Il approche de lui deux hommes. Un jeune homme, grand, mince, tête osseuse et cheveux châtains. Il est malgré tout assez beau. L'autre, c'est Julien. L'homme dit à Julien, vous en prie, monsieur, ne cherchez pas à sympathiser avec moi. Julien lui demande, mais pourquoi ? Je lui dis, parce que ça suffit. Je souffre suffisamment comme ça. Julien lui dit, mais je ne fais pas souffrir, je ne fais rien. L'homme lui dit agacé, j'ai bien le droit de vouloir être seul. Julien lui dit, bien, si vous le voulez, mais je voulais simplement un peu parler avec vous, comme ça. Julien s'éloigne. Elle s'y trouve l'homme bizarre. Pas vouloir parler à Julien. L'homme rougit. Alexis a l'air surpris. L'homme lui dit, j'avais besoin c'est d'être seul. Alexis lui dit, je vais m'en aller. L'homme lui dit, non, restez puisque vous êtes là. Alexis se demande si l'homme est un fou. L'homme lui dit, vous aimez vous aussi la solitude? Alexis lui dit, oui surtout ce soir. Et puis je suis fatigué. Vous aussi? Le lui dit. Moi, c'est autre chose. Je ne peux pas avoir de relation comme tout le monde. Et Sylvain, comment ? Je lui dis. Parce que ça me fait souffrir. Et s'il fait, je ne comprends pas. Je lui dis. Eh bien, comme l'on ne peut pas me donner ce que je veux, cela me fait mal. Et je suis obligé de cacher ce que je suis. Alicie lui dit, et vous êtes qui ? Je lui dis, moi, un homme à part, qui a des goûts à part, qui est obligé toute sa vie de cacher sa vie. Ce qui est vraiment désagréable. Et s'il dit, on ne doit pas avoir honte de ce que l'on est. Ce n'est pas d'autre faute si on est né comme ça. C'est la nature qui l'a voulu. Je lui dis, c'est pas si simple que ça. Et s'il dit, parlez-moi clairement, je ne comprends rien à tout ce que vous dites. Je lui dis, alors je veux bien, mais chut. Il lui dit, eh bien voilà. Je ne peux pas avoir de relation avec des gens, avec des personnes. Parce que une relation avec moi, ça risque de me faire mal. Ça me fait mal parce qu'il ne peut pas me donner ce que je souhaite. Il doit s'éloigner de moi pour éviter que je souffre trop. J'aime les beaux garçons. Je les désire. Mais je ne peux pas, parce que ça ne se fait pas. Je dois cacher mes désirs à cause de m'attirer des ennuis et qu'on me rejette. Toute ma vie, j'étais obligé, c'est de cacher ce que je suis. J'aime ce que je ne dois pas aimer. Je n'ai pas d'instruction et je dois le cacher aussi. Je sais à peine écrire, mais en faisant des fautes terribles. J'y peux rien, c'est comme ça. Là aussi, je dois le cacher. Cacher mon écriture. Je ne peux écrire de peur que l'on découvre que je ne sais pas écrire. Et je suis tellement bien arrivé que l'on croit que je sais écrire et que j'écris des histoires et que je suis un romancier, en quelque sorte. C'est comme si on disait qu'un homme est chercheur en mathématiques et qu'il ne connaisse pas les chiffres. Eh bien, moi, c'est la même chose. J'y suis pour rien, c'est comme ça. Je casse des tas de choses à ma famille et aux autres, à la société. Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.